Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et le retour de Jean-Pierre Foulty, évidemment. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors nous sommes avec vous à la deuxième semaine de notre série de chroniques que vous consacrez à l'Europe de l'opéra. Vous nous avez dit que le premier opéra digne de ce nom avait été joué, si j'ai bonne mémoire, en Italie. C'était en
1607.
Fameuse date à retenir.
Et je vous avais promis que nous nous rapprocherions de la France. Ça va être le cas aujourd'hui. Et nous avancerons aussi dans le temps puisque nous arriverons jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais pour l'instant, nous allons revenir à des temps plus anciens et ce 17e siècle baroque dont je vous ai parlé à propos de l'Italie.
Un opéra baroque alors que vous pourriez nous décrire comment ?
Je vous passe les caractéristiques proprement musicales pour nous intéresser aux thèmes choisis et à la façon dont ils sont présentés sur les scènes théâtrales européennes. Des sujets puisés, je l'ai dit, presque exclusivement dans l'histoire antique ou dans la mythologie, mais mis au jour de l'époque, notamment dans la scénographie, c'est-à-dire la présentation sur scène des décors, des personnages. Et au XVIIe siècle, même si on ne disposait pas des technologies que l'on connaît aujourd'hui, ce sont des effets d'éclairage et de véritables machineries qui sont utilisés pour servir la féerie des opéras. Apparition, disparition, atterrissage sur scène, tempête, monstres marins, etc. Ce sont des machineries très complexes avec poulies, treuil et contrepoids qu'il faut mettre en place. D'ailleurs, dès la fin du XVe siècle, Léonard de Vinci lui-même avait conçu des machines de scène extraordinaires. Et bien sûr, dans les cours princières ou royales où ces spectacles sont donnés, comme à la cour de Louis XIV, on ne lésine pas sur les moyens.
Donc on arrive en France, et si je vous suis bien, à Versailles.
Exactement. Et comme la France était dirigée en ce milieu du XVIIe siècle par un certain cardinal Mazarin, dont on sait l'origine italienne, l'opéra italien est introduit à la cour. Et c'est encore un Italien de naissance qui va devenir le principal créateur d'opéra français. Je veux parler bien sûr de Jean-Baptiste Lully. Il est arrivé en France à 13 ans, il aurait été commis marmiton dans les cuisines royales et aurait joué au violon devant le cardinal une petite sérénade qu'il venait d'inventer au clair de la lune.
Alors, il dit vaguement quelque chose.
On ne sait plus très bien où est la vérité, où est la légende, mais le fait est que le modeste Lully va s'imposer à la cour comme surintendant de la musique royale, où il règnera pendant des décennies en véritable dictateur. Et c'est à ce titre, celui de surintendant, hein, pas de dictateur, qu'il va créer un nombre considérable d'opéras, de musique de ballet, et va coopérer, on s'en souvient peut-être, avec Molière pour la musique du bourgeois gentilhomme notamment. Les circonstances de la mort de cet homme hors du commun en 1687 sont elles aussi originales.
Ah, on a envie d'en savoir plus quand même.
Oui, alors qu'il dirige ses musiciens non avec une baguette comme on le fait aujourd'hui, mais avec un lourd bâton dont il frappe le sol en cadence, il se donne un coup violent sur le gros orteil. La blessure s'infecte, c'est la gangrène dont il meurt quelques semaines plus tard.
Très glorieux, une mort quand même curieuse. Mais l'opéra, lui, a continué pour autant de se diffuser en France ?
À Paris comme à la cour de Versailles. Et l'homme qui va incarner le renouveau de l'opéra français, c'est Jean-Philippe Rameau. Auteur de nombreux opéras sur des sujets mythologiques, son œuvre restée la plus célèbre est toutefois l'opéra-ballet « Les Indes galantes », dont je vous propose d'écouter un extrait intitulé « Les Sauvages ». Et j'invite vivement nos auditeurs à aller voir sur YouTube l'étonnante représentation qui en a été donnée en 2019, c'est assez récent, à l'Opéra de Paris avec une troupe de danseurs hip-hop. Le monde de l'opéra n'est pas toujours un univers paisible, et à l'époque, on n'hésitait pas à s'agresser par des pamphlets, notamment lors de la querelle des bouffons, dans laquelle les partisans de Rameau, qui défendent un opéra à la française, ou également un opéra de cour, s'en prennent à ceux de Jean-Jacques Rousseau, qui plaident, eux, pour le style, disons, italianisant.
Bon, alors vous nous avez dit que vous auriez jusqu'au XIXe siècle.
J'y viens. et c'est à ce moment une toute autre conception de l'opéra qui s'impose. Mozart et Gluck, que nous reparlerons d'eux bientôt, sont passés par là. Des dialogues parlés alternent avec les airs chantés, finis aussi les sujets antiques. Place à l'opéra historique teinté de fantastique ou à des drames plus intimistes, car nous sommes alors en plein romantisme. À ce propos, il faut parler ici d'un acteur, entre guillemets, acteur essentiel de la création d'opéra, le librettiste, c'est-à-dire l'auteur du livret, le texte des dialogues qui seront chantés ou dits sur scène. Les librettistes sont parfois les concepteurs du livret, mais ils adaptent aussi souvent pour l'opéra des œuvres littéraires préexistantes, de théâtre par exemple, comme le Don Juan de Molière devenu le Don Giovanni de Mozart, livret de Da Ponte, ou un récit comme Carmen, la nouvelle de Prosper Mérimée, qui, retravaillée par les librettistes Meillac et Lévy, sera le sujet de la Carmen de Georges Bizet. Parfois, c'est plus rare, c'est le compositeur lui-même qui, comme Berlioz et surtout Wagner, écrit lui-même le livret de ses opéras. Mais pour revenir à notre sujet, je dirais que le XIXe siècle, c'est en France le siècle du grand opéra.
C'est-à-dire ?
Paris est alors le centre culturel de l'Europe, donc de l'opéra, et tous les compositeurs veulent y être joués. Certains Français, un peu oubliés aujourd'hui, y connaissent un succès considérable comme Meyerbeer. Y sont données des œuvres de grande envergure comme celles de Gounod, de Massenet, et c'est surtout en 1875 la création de Carmen de Georges Bizet, dont nous entendons la célèbre Habanera, un des opéras les plus joués au monde, bien qu'à l'époque le réalisme des amours tragiques de la sulfureuse Carmen avec le brigadier Don José ait soulevé des indignations. Le spectacle lyrique, qui était jusque-là réservé aux cours européennes et à l'aristocratie, se démocratise, même si son public demeure encore essentiellement bourgeois. Il est de bon ton pour affirmer son rang social de se montrer à une loge, ce qui mettra en colère le compositeur Hector Berlioz. Il s'agit d'être vu dans la salle et de pouvoir dire « j'y étais ». Je terminerai en disant que la seconde partie du XIXe siècle est l'époque aussi où, en dehors des drames lyriques comme Carmen, triomphe l'opéra bouffe de Jacques Offenbach, un opéra pour faire rire. Nous en reparlerons bientôt plus longuement. Mais la semaine prochaine, nous serons plutôt germaniques.
Notre tour d'Europe continue donc. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'Europe et nous, info, conseils et actu pour construire ensemble la communauté européenne de demain avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.